Demain, le ministre Christian Dubé va présenter son plan, le plan qui vise à garder le personnel dans les hôpitaux et à ramener des gens qui ont quitté, qui sont partis à la retraite, qui sont allés vers le secteur privé. Tout ça alors qu'on se prépare pour le 15 octobre, alors que la vaccination sera obligatoire. On verra qui ça touche directement, mais on le sait que c'est ultimement des suspensions sans solde qui seront imposées. Ça fait des semaines qu'on parle de l'état du réseau de la santé au Québec. Au début de la semaine, le docteur Boucher des urgences était avec nous. On a parlé avec le docteur Legault de la Fédération des médecins omnispécialistes. Ce matin, la presse titre « C'est pire que jamais ». Des urgences et des salles d'accouchement fermées, des lits en moins aux soins intensifs, des ambulances détournées, des chirurgies cardiaques reportées, et la liste n'en finit plus. J'en parle ce matin avec Mme Rosemonde Landry, qui est la présidente directrice générale du CIS des Laurentides. Mme Landry, bonjour.
Bonjour, M. Arcand.
La première question va être très simple. Je viens de donner un peu le constat que fait la presse ce matin. Chez vous, là, si vous aviez à me faire une espèce de bilan de situation, qu'est-ce que vous me diriez?
Mais je vous dirais que la situation est très difficile, principalement dans nos salles d'urgence. Depuis quelques mois, on voit les volumes d'activité dans nos urgences qui frisent les volumes d'activité des périodes hivernales, là, avec quand il y a une grosse période de grippe. Donc, il y a beaucoup de patients qui se présentent à l'urgence. Et combiné à ça, on vit avec, comme partout ailleurs au Québec, un manque de personnel important. L'épuisement des personnes est très présente. On a à peu près 27 % là, d'absentéisme de toutes sortes, le congé de maternité, congé de maladie, accident de travail. Donc, c'est 150 personnes qui sont 1500 personnes qui sont absentes là, à long terme sur 5300 soignants, là, quand on parle d'infirmières, infirmières régulières, inhalothérapeutes. Donc, le personnel est fatigué. Ça fait bientôt 2 ans qu'on se bat contre la pandémie. Ils ont fait preuve de courage, de résilience depuis tout ce temps-là. Ils ont livré la marchandise, mais là, ils sont essoufflés. Donc, on vit avec des absentéistes, de l'absentéisme ponctuel et des absentéistes long terme, là, et quelques départs. Donc, c'est un cercle vicieux, hein. Moins t'as de monde, plus les gens se fatiguent, plus on utilise le temps supplémentaire obligatoire. Donc, c'est une période qui est difficile pour le personnel.
OK. Je vais prendre ça de façon un petit peu plus précise ou plus pointue. Par exemple, vous parlez du niveau d'occupation dans les salles d'urgence. Est-ce que il y a rupture de service à certains endroits? On a vu ça dans d'autres régions au Québec. Est-ce que il y a un temps d'attente qui est plus important, donc du patient qui se présente, autant que du patient qui est gardé à un sourcilière?
Mais malheureusement, effectivement, les temps d'attente sont augmentés dans la salle d'attente pour les P4, P5 et on vit avec des départs avant prise en charge qu'on appelle. Nous, on a eu des...
Ce sont des patients qui quittent avant d'avoir été vus par le médecin.
Avant d'avoir été vus par le médecin, effectivement. Donc, nous, on a rencontré les équipes médicales de première ligne, donc nos partenaires des GMF. On a négocié avec eux des plages horaires additionnelles pour de la réorientation, quand on dans notre jargon, la réorientation P4, P5. Donc, ils ont été très collaboratifs. On a eu plusieurs offres d'ajout de plages horaires. On demande aussi à la population, on a fait des annonces, là, sûrement vous avez entendu, qu'on demande aux gens de contacter le 811 avant de se présenter, contacter son médecin de famille ou son pharmacien. Les pharmaciens peuvent faire plein de choses maintenant et aussi utiliser Rendez-vous Santé Québec, là, qui est le système de rendez-vous sans pour les patients orphelins ou les patients qui ne peuvent pas rejoindre leur médecin.
Bon, Mme Landry, ça, c'est au niveau de l'urgence. Parlez-moi, dans les hôpitaux, est-ce qu'il y a beaucoup de délestage sur votre territoire? Des gens qui attendent et qui, à cause du manque de personnel puis de la COVID, là, ben, vont attendre plus longtemps.
Vous les dites du délestage pour les patients?
Pour la chirurgie. Des cas de chirurgie qui sont délestés parce qu'on manque de monde puis les COVID sont là.
Ben écoutez, on n'a pas délesté dans les salles d'attente, dans les salles d'opération. On réussit à maintenir le cap. Qu'est-ce qu'on fait par contre? Je vous dirais qu'on diminue le nombre de patients opérés, hospitalisés, puis on nous perd plus de patients en chirurgie d'un jour. Donc oui, ça peut augmenter un petit peu les délais.
Attendez, je veux juste comprendre. Est-ce que vous me dites, dans le fond, on opère les gens qui restent pas longtemps, puis les cas plus importants qui seraient peut-être un jour, 2 jours, 3 jours à l'hôpital, eux attendent?
Ben, c'est pas, c'est toujours les médecins qui font leur liste opératoire, donc ils priorisent leurs patients. Donc, on opère un certain nombre de patients hospitalisés et un certain nombre de patients chirurgie d'un jour. Certaines journées, quand c'est plus serré à l'urgence, qu'on a besoin de plus de lits, on va opérer plus de patients en chirurgie d'un jour, mais ça veut pas dire que c'est des chirurgies pas importantes, là. Il y a des personnes qui ont chirurgie d'un jour qui se font faire des prothèses de hanche ou des prothèses de genoux. Donc, il y a quand même une gestion qui de la des plages horaires en salle d'opération qui se fait avec les chirurgiens.
OK. Ça fait combien de temps que vous œuvrez dans le réseau de la santé?
Moi? Ouais. Ça fait, là, vous avez, 40 ans.
Ça fait 40 ans. Est-ce que vous avez-vous déjà vu une situation comme celle-là?
La situation est particulièrement difficile, effectivement. On a eu des pénuries par le passé, mais celle-ci est assez importante à mes yeux.
OK.
Même très importante, je dirais.
Il vous manque combien d'employés? Vous m'avez parlé tantôt de 1500, là, mais juste que ça soit bien clair, là, il vous manque là, combien d'employés pour offrir un service, entre guillemets, normal et correct aux citoyens?
Mais écoutez, comme je vous dis, on a 1500 absences, puis au dernier affichage du mois de mai, on a 500 postes qui ont resté vacants.
500 postes qui n'ont pas été sollicités.
C'est ça, exactement. Oui. Pour ça, c'est inhalothérapeute, infirmière et infirmière auxiliaire. Donc, la catégorie 1, là, FIC, qu'on appelle, là, c'est ça, 500 postes. Donc, on a de la place pour embaucher.
Est-ce que vous avez évalué le pourcentage d'employés que vous allez perdre à cause de la vaccination obligatoire?
Nous, notre vaccination dans les Laurentides, on a 90% de nos employés qui sont vaccinés. Deux doses pleinement vaccinées, puis on a 94% qui sont vaccinés une dose. Donc, oui, c'est sûr qu'avec la pénurie qu'on vit actuellement, ça nous inquiète, mais on n'a pas un taux bas de vaccination, on a un très bon taux de vaccination chez nos employés. Donc,
mais vous allez perdre du monde pareil.
Sûrement,
ouais. Sûrement.
On va suivre les directives du ministère, puis au 15 octobre, les gens seront suspendus sans solde.
Le ministre Christian Dubé a dit « J'ai parlé à tous les PDG de CIS et de CIUS, puis je leur ai dit « Trouvez-moi une solution pour ramener les infirmières, puis tout le personnel, le soignant, les gens qui ont quitté, qui sont à la retraite. » Avez-vous un plan pour garder le monde puis ramener le monde?
Oui, c'est sûr qu'on essaie d'améliorer les conditions de travail. On sait que dans la prochaine convention de la FIC qui sera signée bientôt là, par le ministère, et par le gouvernement et la FIC, il y a des éléments importants qui vont améliorer les conditions de travail des employés. Donc, on a hâte de voir les résultats de ça. Et aussi, le ministre, on rencontre justement cet après-midi les PDG pour un nouveau modèle de gestion là, basé sur les bonnes pratiques. Puis, il y a des éléments là-dedans qui vont nous permettre d'améliorer les conditions de travail. Donc, on travaille en étroite collaboration avec le gouvernement
okay. Et
le ministre de la Santé.
OK, juste entre vous et moi, là. Pensez-vous que c'est réaliste de penser qu'on va ramener du monde à un rythme suffisant pour être capable d'avoir des services de base? Là? Je parle même pas de services exceptionnels. C'est parce que moi, je regarde ça, là, puis je reçois beaucoup de messages d'infirmières auxiliaires qui disent « Oublie ça, nous autres, on retourne pas là. » On va pas virer le mammouth là, sur un dixaine.
Mais écoutez, je pense qu'on a l'énergie de continuer, puis je pense qu'il faut continuer, il faut être innovateur, puis trouver des solutions qui vont nous permettre de ramener des gens dans le réseau. Parce que les gens qui sont dans les agences, ils travaillent dans le réseau actuellement. Donc, c'est juste de les faire revenir dans le réseau de la santé.
D'après vous, ça prend quoi pour qu'ils reviennent?
Mais c'est sûr que si on est capable d'améliorer les conditions de travail, comme je vous disais tantôt, ça va nous aider. Puis je ne sais pas tout ce qu'il y a dans la convention collective FIC. Là, on a bien hâte de voir. Est-ce qu'il y aura des incitatifs pour nous permettre de recruter des gens qui sont dans les agences actuellement? Mais ces gens-là, ils travaillent dans le réseau actuellement. Là.
Je comprends, mais ils travaillent par le biais d'agences.
Oui, c'est ça, effectivement. Donc, ils ne sont pas nécessairement disponibles sur les corps défavorables, pour dire quelque chose.
Avez-vous un plan contraire? C'est-à-dire que si la pénurie de personnel continue, si vous n'êtes pas capable de recruter, vous donniez l'exemple des 500 postes que vous avez affichés et qui n'ont pas trouvé preneur. Avez-vous un plan déjà en disant « OK, ça veut dire qu'on va fermer telle urgence, ça veut dire qu'on va fermer tel bloc opératoire, ça veut dire que tel service va être coupé. » Avez-vous ça dans vos cartons?
Non, on garde, pas nécessairement de fermer, mais des fois, ça peut être des réductions de services. Mais actuellement, on a été capable de tenir le cap, puis on va tenir le cap aussi longtemps qu'on va pouvoir. Mais tu sais, j'ai pas de boule de cristal pour me dire, dans un mois, je vais avoir d'autres personnes en assurance salaire ou pas, ou partir en congé de maternité. Donc, c'est difficile à dire. Mais oui, on réfléchit à comment on peut moduler les offres de services. Puis, on travaille avec le gouvernement, le ministère, sur ça aussi.
Vous perdez combien d'employés par semaine?
C'est difficile à dire. Par semaine, c'est quelques personnes qui partent en les congés de maternité. Hein. Avec la pandémie, les infirmières auxiliaires, les préposées qui sont directement aux patients ne peuvent pas travailler du moment où ils sont enceintes. Ça nous fait mal parce qu'avant, ils travaillaient un certain nombre de semaines quand ils sont en début de grossesse. Donc, je n'ai pas de chiffre exact, monsieur Arcand.
Merci, Mme Landry.
Ben, merci.
Au revoir.
Bonne journée.
Rosemonde Landry, la présidente directrice générale du CIS des Laurentides. Demain, c'est le plan. On verra quels sont les moyens que le gouvernement a trouvés pour, je répète, garder le personnel qui est déjà dans le réseau, puis attirer des gens qui sont à l'extérieur, ce qui veut dire des gens retraités, puis des gens qui œuvrent par le biais d'agences privées. Mais vous lirez l'article de la presse ce matin, puis c'est un peu la tendance qu'on observe à plusieurs endroits, c'est-à-dire des gens épuisés, du personnel fatigué, puis des gens qui ne veulent plus faire de temps supplémentaire obligatoire, des gens qui disent beaucoup, c'est pas juste une question d'argent, c'est une question de climat de travail, de conditions de travail. Et ça, c'est fondamental. C'est pas juste de... Tu sais, si la réponse est « je te donne une prime de temps par mois », à mon humble avis, ça sera pas suffisant. Ça prend nettement plus que ça. Le ministre Dubé disait « je veux que le personnel soit heureux ». Réponse demain, puis entre-temps, j'ai des patients qui m'expliquent qu'ils sont reportés d'un rendez-vous à l'autre là, pour des chirurgies. Puis il y a des cas de cancer là-dedans. Ce n'est pas des cas de cancer hyper urgents, mais tu sais, quand tu attends pour une chirurgie de cancer, quand c'est toi, là, c'est toujours assez urgent. Il est 7h40.